C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle évidemment des élections présidentielles de ce week-end. Et pour m'accompagner, je suis avec mon expert politique, Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Merci pour ce titre. Écoute, je crois qu'il faut que je mette les choses au clair. Je ne sais pas pourquoi, malgré que je sois français, malgré que je doive être impliqué, que c'est un des devoirs du citoyen, ça m'emmerde, clairement. Je ne m'y retrouve jamais dans les programmes, dans la manière de communiquer, dans les personnes en face, je m'y retrouve pas, ça me fait chier, je préfère faire autre chose, de bien, parfois, des fois, mais on va quand même se prêter au jeu de regarder ce qui se passe.
Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est encore un droit, t'as le droit de t'en foutre.
Oui.
Enfin, t'as le droit de pas t'intéresser au sujet. C'est un devoir et un droit, donc bon, voilà, débrouille-toi avec ça. Les amis, ce matin, on va donc parler des présidentielles. Vous le savez, ce week-end, on va tous aller voter, même ceux qui s'en foutent. Et dimanche, on va aller mettre un petit papier dans l'urne. On va pas parler réellement politique, on va parler propagande ce matin. C'est ce que je propose, c'est qu'on parle communication politique, notamment via les réseaux sociaux.
Voilà, et pour ceux qui n'ont pas encore fait leur procuration, vous pouvez encore. Hein. On va quand même vous inciter à voter au milieu de ce podcast.
Exactement. Alors bon, on va faire simple. Hein. Il y a 12 candidats à cette élection présidentielle. Il y a énormément de choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux. On va pas pouvoir parler de tout, hein, à moins de se lancer dans une matinale qui durerait 4 heures. Donc on va être un petit peu focus et faire un point, on va dire, assez précis de quelques candidats, les passer au crible. Puis aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, les candidats, sur les plateformes sociales ?
Oui, exactement. On va pas arriver avec notre œil de surveillant politique, mais plutôt notre œil d'expert social media. On sait ce qui se passe sur les réseaux, on voit ce qui se passe, mais aussi on s'est renseigné sur la loi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire des candidats sur les réseaux sociaux, mais aussi globalement dans le cadre d'une campagne en communication. Si tu veux, je veux bien commencer avec un premier paragraphe.
Vas-y, je rentre
dans le sujet. Donc, je me suis intéressé un petit peu à ça. On parle souvent de principe de neutralité. On entend parler de ça. Après, pour comprendre, faut un peu creuser. Hein. Ce que j'ai appris, c'est que les élus, les acteurs de la République française sous le gouvernement actuel sont soumis au principe de neutralité. Ça veut dire que tout candidat ainsi que ses soutiens titulaires d'une telle fonction, ces élus actuels, les ministres actuels, doivent veiller à bien distinguer leurs actions de communication en lien avec leurs fonctions à celles rattachées à la campagne. C'est-à-dire qu'un ministre actuel n'a pas le droit de vanter, par exemple, Emmanuel Macron ou tout autre candidat à la campagne présidentielle. Il doit rester neutre. C'est ce principe de neutralité sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est vrai que c'est la guerre, c'est présidentiel, c'est sauvage. Et pourtant, au milieu de ce combat de MMA, on va dire, eh bien, il y a des règles. Et ces règles, c'est la CNCCEP qui les fixe.
La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle.
Voilà, alors on va l'appeler plus simplement la CNCCEP. et justement, depuis le mois de février, cette commission, elle est sur tous les fronts pour essayer de faire respecter les règles. Je dis bien essayer parce qu'effectivement, au milieu de ce chaos, c'est un peu free fight avec un arbitre un peu dépassé. Hein. À titre d'exemple, le 28 février 2022, cette commission, elle publiait un avis rappelant les règles pour les candidats et effectivement leur soutien sur leurs comptes réseaux sociaux. Est-ce que tu es tombé sur cet avis,
Camille ? J'ai plusieurs infos là-dessus. Tu vas compléter si besoin. Moi, j'ai un autre avis qui est tombé le 7 mars d'ailleurs, mais tout d'abord sur celui dont tu parles, je pense. La CNCCEP a précisé que les comptes réseaux sociaux des candidats ne doivent pas être utilisés de manière à confondre exercice de fonction officielle et propagande se rattachant à la campagne électorale.
Le mot propagande, c'est pas moi qui le dis, c'est la commission. En gros, ce qui est interdit. Effectivement, tu as dit utiliser mon compte pro, en fait, compte d'élu pour vanter les mérites d'un candidat ou de ma pomme. Voilà. Première chose. Ensuite, tout ce qui est fausse nouvelle, fake news, interdit. Ouais. Bon, on espère. on espère, avec un E majuscule, les propos diffamatoires, la manipulation par diffusion massive de messages. Et ça, on y reviendra peut-être, hein, oui. Parce que dans la campagne, il y a eu ça, en gros.
Où Éric Zemmour s'est fait épingler sur le sujet.
Exactement. Et puis, les ingérences étrangères, là aussi, on espère, avec un grand E majuscule. Donc ça, c'est un peu les règles que fixe cette CNCCEP, des règles de bon sens, on va dire. Hein. Et donc, pour revenir sur ce sujet autour de l'exercice des fonctions publiques et la non-confusion de comptes publics et de comptes de campagne, là aussi, tu l'as dit, le 7 mars, la CNCCEP faisait aussi un rappel à l'ordre.
Oui, voilà. Donc, elle a fait un rappel à l'ordre à Emmanuel Macron. Elle a demandé donc au président de la République. C'est assez intéressant de repréciser président de la République, qui n'est pas candidat, de s'abstenir d'utiliser son compte Twitter @EmmanuelMacron, 8 millions d'abonnés, compte qu'il a depuis 5 ans, même plus, qui fournit énormément d'informations, de s'abstenir donc de communiquer à des fins de propagande électorale sur la durée de la campagne. Ce compte, il a été utilisé de longue date pour relayer des messages concernant l'exercice des fonctions, très bien, mais là, la commission a invité le candidat à retirer sa déclaration de candidature, par exemple, de ce compte, et à utiliser le compte spécialement créé pour les besoins de la campagne, le compte qui s'appelle...
Avec vous,
Emmanuel Macron avec vous sur Twitter.
Voilà, donc très intéressant tout ça et ce qu'il a fait d'ailleurs, hein, il a créé donc un compte avec vous et il a retiré ses trucs. Alors maintenant, je te propose, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, hein, qu'on jette un petit coup d'œil.
Un truc qui m'a sauté aux yeux ce matin. Je lisais la question de l'ingérence étrangère dont tu as parlé là brièvement et je me disais ça vient faire quoi là-dedans. Et en fait, je viens de comprendre un truc. J'imagine, tu vas me dire si je dis des conneries, notamment le fait que des politiciens étrangers, on va dire. Des acteurs étrangers de la politique puissent influencer aussi des expats peut-être à voter en France en soutenant un candidat français.
Oui, mais surtout des médias. Le fond du sujet, et c'était une des énormes polémiques, un des buzz autour de l'élection de Trump, c'était l'ingérence russe et notamment de médias russes dans l'élection présidentielle. Là, il s'est joué la même chose sur la dernière élection présidentielle en France. Hein, on le sait, le poids des médias russes, notamment digitaux, notamment Russia Today, hein, par exemple, qui avait appuyé très fortement pour faire pivoter, on va dire, la campagne présidentielle vers les extrêmes. Alors là, on est un peu moins emmerdé avec Russia Today parce qu'ils sont plus là. On a coupé le jus, ce qui nous fait du bien aussi. Hein, on est moins pollué de tout ça. Mais en gros, l'idée, c'est de dire oui, je peux pas utiliser des forces extérieures, internationales, médiatiques, politiques, dans le cadre de ma campagne. Alors c'est compliqué, hein, tout ça, parce qu'on le sait, il y a un certain nombre de candidats qui aujourd'hui sont financés par des emprunts qu'ils ont souscrits à l'étranger. Donc c'est complexe. Qu'évidemment, chaque homme et femmes politiques aujourd'hui sur l'échiquier français a aussi un cercle de relations politiques ou médiatiques à l'étranger. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée de la mission de la commission CNCCEP.
Merci pour la mise au point sur l'ingérence.
Je t'en prie. Allez, je te propose qu'on parle un petit peu des candidats, qu'on fasse un petit tour d'horizon. Ce qu'on peut quand même souligner, hein, en préalable, c'est que les candidates et les candidats les plus radicaux, ce sont souvent ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux. C'est quasiment organique. Hein. Les réseaux sociaux, ce sont des espaces qui favorisent les clivages. Ça, on en a déjà évidemment parlé ici. Et à ce titre, eh bien évidemment, les candidats des extrêmes, ils bénéficient généralement une sorte de coup de pouce algorithmique entre guillemets, hein, compte tenu du volume de discussion qu'il génère. En gros, il crée du clivage, ça crée de la discussion, du coup, de fait, ils sont beaucoup plus visibles, et à ce titre, eh ben, c'est surtout Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, dont on a beaucoup entendu parler sur les plateformes depuis quelques semaines.
On en avait parlé, alors il y a une longue étude là-dessus, sur ce sujet précisément, hein, rapporté à l'élection présidentielle française, mais il y avait une étude dont on avait déjà parlé sur Twitter, qui révélait qu'aux États-Unis, il y avait par exemple les conservateurs étaient plus mis en avant que les démocrates après une longue étude, une comparaison de beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'il y a un coup de pouce algorithmique assez étrange autour des élections présidentielles.
Oui, mais en fait, il est organique.
Ça s'explique d'une certaine manière, mais je pense qu'il y a, bon voilà, il y a des doutes. Faudrait lire toute l'étude.
Allez, moi je te propose qu'on aille jeter un coup d'œil justement l'une des grandes stars des réseaux sociaux, hein, en tout cas lorsqu'il s'agit de politique. JLM, Jean-Luc. Mélenchon, qui a mené, en tout cas ses équipes ont mené une espèce de campagne, une campagne numérique tonitruante, hein, ils y sont habitués, de geeks, un peu trublions.
Et
hein.
Tu veux dire de trolls?
Et de trolls aussi. Hein. Ce qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est que chez les équipes de Jean-Luc Mélenchon, il y a une vraie et grosse culture numérique. Ils savent ce qu'ils font, les mecs. Ils sont aussi assez pointards, assez avant-gardistes. C'est une signature de la France insoumise, c'est une signature du candidat. Hein.
Exactement. Et je sais pas de quel compte toi t'avais prévu de parler. Moi, je peux te parler de celui de TikTok, du compte TikTok de Jean-Luc Mélenchon. Déjà, rien que dans cette phrase, hein, ça exprime ce que tu viens de dire, ce clivage et puis cette espèce de rupture qu'il y a avec les autres candidats. Donc Mélenchon, c'est clairement le troll de TikTok. Alors j'ai regardé 2-3 vidéos et la première qui m'a interpellé, c'est un portrait de Marine Le Pen. Donc je me suis amusé à cliquer dessus.
Bien sûr.
Et là, c'est vraiment avec sa stature d'homme politique à lui, on s'attend pas vraiment à avoir ce genre de discours, et là t'as un discours de Marine Le Pen qui cite Poutine et Trump, et lui en fait une espèce de, enfin lui en tout cas ses équipes en font un espèce de montage où on voit Poutine, Trump et Marine Le Pen, et clairement il se fout de sa gueule. Et puis parfois t'as un peu une fin à la Kaby Lane sur une vidéo que j'ai vue avec Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron cite Jean-Luc Mélenchon, et à la fin tu le vois faire
Et ouais, ça c'était moi. Oui, il y a effectivement ce côté troll. C'est assez intriguant de voir effectivement dans ce feed TikTok de Jean-Luc Mélenchon des visuels d'autres candidats. Tu te dis, tiens, évidemment, ça attire l'attention. Donc je les ai vus aussi, ces petites piques bien trouvées, on va
et
dire.
Et parfois, quand il est filmé face caméra, c'est un peu détonnant. Moi, je l'ai vu il y a quelques mois. Je m'étais abonné au compte à l'époque parce que ça m'avait surpris. Il allait faire un discours face à Éric Zemmour. Il buvait un lait fraise. Il disait, bon, je bois un lait fraise avant d'aller affronter Zemmour. Allez, bisous. C'est un truc du genre. À part cet humour, il a aussi créé son filtre Instagram et Snapchat. Il en parle le compte.
Excuse-moi, juste avant qu'on parte sur Instagram.
J'en parle pas.
Sur TikTok, c'est 1,8 million d'abonnés.
Oui,
hein, c'est quand
exactement.
Même pas rien.
C'est 1,8 million d'abonnés. C'est assez énorme. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas comparé. T'as peut-être d'autres comptes TikTok, mais j'ai trouvé ça assez énorme.
Ah, il est loin devant.
Ouais. Et le contenu marche bien. Hein. Donc, on voit clairement qu'il s'adresse aux jeunes. Il y a des espèces d'effets de ouf. Et juste, je te parle de ce filtre parce qu'il en parle sur son compte TikTok. Un filtre Instagram, Snapchat, hashtag hologramme de poche, où tu peux faire apparaître Jean-Luc Mélenchon qui te répète qu'il faut aller voter. Voilà.
Ouais, ça se passe sur Snapchat et aussi sur Instagram. Ouais. Hein. Instagram de Jean-Luc Mélenchon, 225 000 abonnés, avec effectivement ce truc un peu anecdotique, mais qui sert bien à Jean-Luc Mélenchon, ses hologrammes. Hein. Ça aussi, c'est devenu une sorte de gadget. Il a tout compris du bouche à oreille, en fait, des mécaniques de bouche à oreille, Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, ses équipes de campagne. Pardon, hein. Il faut parfois un truc au-delà des discours politiques, au-delà des idées, au-delà de l'offre, on va dire, politique. Il faut quelque chose dont les gens puissent parler. Et là, les hologrammes, tu peux en parler. Et le dernier clin d'œil en date autour de ces hologrammes, c'est ce fameux filtre en réalité augmentée que vous avez peut-être vu apparaître sur Instagram. Hein. C'est assez marrant. Voilà. Bon, en vrai, ça casse pas quatre pattes à un canard en termes de techno. Hein. C'est assez simple. C'est un petit filtre où tu peux avoir un micro Jean-Luc Mélenchon que tu peux projeter, on va dire, dans ta vraie vie, sur la table du salon, et lui dans une vidéo on le voit avec un mini Jean-Luc Mélenchon sur son épaule qui dit il faut aller voter parce qu'en France c'est la dictature, en gros, si je résume.
Et ce que je trouve assez étonnant, et à la fois bon, ça peut se tenir, mais tu vois, entre TikTok et Instagram dont on vient de parler, on voit clairement qu'il y a une tonalité différente. Je trouve que c'est super vintage, le compte Instagram, on est sur des titrailles blanches, c'est pas ultra jojo, alors que sur TikTok on va volontairement sur beaucoup plus jeune.
Oui, et puis un gros travail autour du son. Hein. Chez TikTok, ils sont vraiment allés chercher des gros sons hip-hop, etc. C'est assez marrant. Jean-Luc Mélenchon, c'est YouTube aussi. Hein. 739 000 abonnés hein, sur YouTube. Donc là aussi, c'est énorme. Avec plusieurs formats web, vidéo différents. Une web série 2022, Nos pas ouvrent le chemin. Bon, ça fait un petit peu, ça fait un peu messianique hein, comme ça. Hein. Ça fait un peu la grand-messe. Pas inintéressant à aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi des émissions récurrentes comme 24 heures avec Jean-Luc Mélenchon, où là on est dans un format un petit peu interview, c'est une émission quoi, c'est une vraie émission, et on voit aussi pas mal de vidéos de campagne, une longue vidéo autour de son programme et de son financement. Et puis la dernière vidéo, elle a été publiée cette nuit, c'est une FAQ d'une heure dans laquelle Mélenchon répond aux questions des internautes. Ça commence par un bonjour. Voilà, donc la tonalité, c'est du Jean-Luc Mélenchon, hein, c'est filmé dans son bureau. Ça a l'air d'être filmé un peu à la volée, alors c'est pas tout à fait le cas. Hein. Et franchement, c'est bien fait. Voilà, le ton est totalement informel. Il est très bon, Jean-Luc Mélenchon, pour ça. Ça marche. Autre truc fou que j'ai vu sur Jean-Luc Mélenchon et sa campagne numérique, Twitch, hein, présence sur Twitch.
J'ai vu aussi, ouais.
13 000 abonnés pour Jean-Luc Mélenchon sur Twitch. C'est ouf. Je veux dire, c'est le candidat, l'homme politique en France, avec évidemment la plus grosse présence sur Twitch. Qu'est-ce qui s'y passe? Il retransmet l'intégralité de ses meetings, hein, globalement, en direct sur Twitch.
Ouais, ouais, c'est ça. Et t'as aussi un. Ouais, non, il fait. Donc, il a aussi son émission populaire. Il parle aussi des hologrammes. Il y a un truc sur les hologrammes. Alors, je sais pas si on parle du même compte, parce qu'il y a aussi son compte Twitch de campagne. Il a tout en doublon, hein, Jean-Luc Mélenchon, finalement. Et c'est là qu'on voit que les comptes. T'annonçaient des chiffres de ouf, hein, tout à l'heure sur YouTube. Là, pareil, sur Twitch. Au final, il y a quand même peu de personnes. Alors, je sais pas si on doit dire que c'est la vraie part des gens qui ont voté pour lui, qui se sont transformés en abonnés de la campagne 2022. Mais c'est là où on voit qu'ils ont très peu d'impact, les comptes de campagne, finalement.
Ouais, bah on en reparlera quand on parlera de Macron et des comptes Macron, parce que là, c'est assez flagrant. Si t'es d'accord, je veux bien qu'on passe d'un extrême à l'autre et qu'on bascule du côté d'Éric Zemmour.
Ah bah, si tu veux.
Voilà, hein, on l'a dit, campagne, qui dit propagande, réseaux sociaux, dit forcément clivage. Et là, forcément, on a un spécialiste, hein, Éric Zemmour, qui tisse méthodiquement sa toile et tente de faire du Trump, hein, depuis plusieurs mois maintenant. C'est clairement ça, avec quand même un gros sujet. On dira ce qu'on veut, en fait, mais les équipes digitales de Zemmour, elles ont bien bossé. Elles ont bossé machiavéliquement, mais elles ont bien bossé. Pendant plusieurs mois, elles n'ont eu qu'une seule idée en tête, c'est nous faire croire qu'il y avait derrière Éric Zemmour une espèce de vaste mouvement populaire. Et ça, il y a un terme technique pour expliquer ça, on appelle ça l'astro-surfing. Est-ce que tu es déjà tombé sur ce terme?
Ouais, l'astro-surfing, ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, ben alors, en fait, j'ai commencé à lire un truc ce matin.
Ou le similantisme.
Ouais, je n'ai pas compris. Donc tu peux y aller.
Donc qu'est-ce que c'est l'astroturfing? Et ben c'est l'objectif, c'est de donner une fausse impression d'un comportement spontané ou d'une opinion populaire sur Internet. Alors je m'explique. Qu'est-ce qu'ont fait les équipes de Zemmour? Elles ont créé des centaines de faux comptes. Totalement réaliste, et elle tente depuis plusieurs semaines de manipuler l'opinion politique et notamment les algorithmes, ouais. En commençant par les algorithmes, de façon à faire remonter et à positionner Éric Zemmour et les sujets qui accompagnent Éric Zemmour en top trends, en top tendance sur Twitter.
En créant une fausse hype algorithmique d'engagement, en tout cas, autour de ses posts.
Ça, c'est les mécaniques.
Il a déjà été épinglé il y a 3 semaines, 1 mois.
Donc ça, c'est les mécaniques qui sont très connues, dont Trump a abusé aussi massivement dans sa dernière campagne. L'astroturfing, voilà, c'est la capacité de faire transformer, on va dire.
Et tu t'appuies, au-delà des faux comptes, tu t'appuies aussi sur tes forts soutiens et tu les mobilises tous au même moment pour faire un push algorithmique.
Exactement. Donc ça, évidemment, sur Twitter, ils ont œuvré massivement. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, et notamment les détails dégueulasses et putassiers des manœuvres de la team Z sur Twitter. On va parler de ce qui se passe du côté de Zemmour sur YouTube, hein, puisqu'il a nous aussi une grosse présence sur YouTube. Et là aussi, hein, idem, stratégie de clivage à l'américaine sur le compte YouTube de Zemmour. Alors, entre les... attendu, on va dire, vidéo de meeting, et ben on trouve des vidéos bien violentes, hein, sous la forme de témoignages, des témoignages d'hommes et de femmes qui auraient, soi-disant, hein, c'est difficile de savoir exactement, été agressés par des étrangers en France. Alors, je vous balance les titres comme ça pour que vous voyez quand même, quand je dis violent, c'est violent. Les titres, hein, YouTube, c'est Catherine, 2 points, ma fille a été agressée par un Algérien de 11 coups de couteau.
Ouais, mon fils Jérémy Cohen, lynché, assassiné.
Alexandre, 2 points, j'ai été agressé à coups de barre de fer. Evelyne, 2 points, mon fils a été tué par un migrant soudanais.
Très précis.
C'est très précis, très, très précis. Voilà. Voilà, grosse stratégie de clivage là-dessus. Personne n'est dupe. Enfin, en tout cas, c'est assez flagrant. Et puis alors, plus étonnant, au milieu de cette tonalité quand même très, très vénère. Hein,
très, très insécuritaire.
Voilà. Eh bien, il y a Zemmour sur Instagram.
Il y a Zemmour sur Instagram et...
Et là, c'est pas tout à fait la même.
Excuse-moi, j'étais sur le compte. Du coup, il faut que je parle de ce truc. On nous en a parlé dans le chat tout à l'heure. Je l'avais pas vu. Voilà, il a fait un mème. A même épargné la France dimanche avec une photo des sondages de l'élection présidentielle 2042 avec un Macron et une Le Pen vieillis avec les résultats des sondages où ils sont quasiment au coude à coude. En gros, arrêtez, c'est moi la jeunesse. Voilà. Déjà, moi, je suis jeune et ensuite, arrêtez, sinon ça va toujours être cette battle à
exactement.
Vie.
Exactement, et alors ça, c'est drôle. La jeunesse, c'est moi de travailler cette ligne-là. C'est ce qu'ils ont essayé de faire sur Instagram et notamment normaliser, on va dire, le candidat. Hein. 225 000 abonnés quand même sur Instagram, c'est ouais. Autant que que Emmanuel que Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Alors, je suis pas allé creuser hein, sur la véracité des abonnés. On le sait, les équipes de Zemmour sont très border, donc c'est pas, j'exclus pas que dans ces 225 000 abonnés, il y ait 2-3 Indiens et Iraniens, c'est pas impossible. Mais ce besoin de normaliser le candidat sur Instagram, il est très intéressant. Objectif, inscrire Éric Zemmour dans la vraie vie. Alors du coup, on y trouve Éric Zemmour qui fait du bowling, Éric Zemmour qui va voir des matchs de foot. Voilà, je savais pas que le mec était fan du PSG, mais ça y est, maintenant je le sais. Éric Zemmour qui fait de la cuisine, voilà. Éric Zemmour qui fait du tennis, pourquoi pas. Et Éric Zemmour qui parle aux chevaux, c'est quand même extraordinaire. On est dans un truc, c'est un peu Martine à la plage, mais façon Éric Zemmour, c'est un peu bizarre.
Et dans, tu vois, dans la volonté de rajeunir aussi le candidat, donc il y a ce post qui est sorti il y a une vingtaine d'heures, et ensuite on voit trois vignettes, des extraits de discours, et qui sont très bien cadrés, puisqu'on arrive à voir le bandeau qui est sous son pupitre avec écrit « Discours à la jeunesse de France ». Et en fait, c'est ça qu'on voit en premier quand on regarde les vignettes. Donc là, on est vraiment dans une volonté de rajeunir très très vite le candidat.
Ouais, d'ailleurs, sur son compte Instagram, il y a une vignette, il y a un reel autour de la Pixel War, il y a une screen capture d'un Twitcher qui est en pleine Pixel War. Est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus? Est-ce que je sais que ce sujet t'a fait kiffer, toi?
J'aurais aimé qu'on creuse plus, mais la Pixel War, on va dire que ça a fait plus parler que les élections présidentielles, et ça a mobilisé plus de Français autour de toutes les 5 minutes, on pouvait aller mettre un petit pixel sur un subreddit, sur une carte digitale, on va dire, où tu pouvais mettre une petite couleur, et les Français se sont mobilisés pour construire une couleur, un drapeau français.
Dans une guerre mondiale,
et ils ont réussi à récupérer la plus grosse place, si on parlait d'un papier, le plus gros nombre de mètres carrés sur cette toile, voilà.
Voilà, donc dans cette Pixel War, donc du coup, une espèce d'élan de la jeunesse de France dans l'absurde du web, c'est ça qu'on adore, nous, et c'est ça qui t'a fait kiffer. Mais Éric Zemmour et ses équipes, eux, ont saisi la balle au bon. Alors, sur Twitter, ils avaient balancé, Éric Zemmour avait balancé un tweet en disant « Jeunesse de France, il est le moment d'aller balancer des briques sur la Pixel War », ce qui avait fait un peu bizarre comme récupération. Et puis là, ils en remettent une couche sur Instagram.
Alors, ce qui est marrant sur Instagram, c'est que la photo qu'il prend, hein, c'est vraiment la Tour Eiffel, le drapeau français. Il n'y a pas la Coupe du Monde et puis les joueurs qui ont gagné, hein, de nationalité peut-être étrangère. Donc il a bien coupé, Éric Zemmour, sur cette Tour Eiffel. Bravo, la France a besoin de vous. La reconquête se fait aussi sur Reddit. Donc c'est assez marrant. Voilà.
Allez, ça, on parlait d'Éric Zemmour. Tiens, si on parlait du candidat, je veux dire, le plus attendu de tous, hein, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, ouais.
Quasiment pas de campagne digitale.
Alors, quasiment pas de campagne du tout pour l'instant.
Ouais,
de toute
c'est
façon,
ça. Ambiance étonnante, je trouve, du côté des réseaux sociaux de la campagne Macron. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a personne à bord.
Ouais, bah écoute, moi la réflexion que je me fais en ce moment, c'est quand j'ai vu le reportage Vice sur la candidature, sur Dick Cheney aux États-Unis pendant Donald Trump, il y a une phrase qui m'a beaucoup noté, qui m'a beaucoup marqué, c'est un candidat pour assurer sa réélection, il lui faut une bonne guerre. Je crois qu'il a assez de communication sur lui en ce moment, Emmanuel Macron. Ça se voit d'ailleurs dans son compte Twitter, hein, il va régulièrement reparler de l'avancée de la guerre en Ukraine, de ce que lui fait, de ce que la France fait. Il est beaucoup sur le devant de la scène. Et je pense qu'il a peur aussi que son discours il soit mélangé, hein, entre ça, où c'est vraiment son rôle de président actuel, et peut-être de la propagande, il va éviter, je pense aussi.
Oui, bah, surtout, il n'a pas le droit, on le sait, la commission l'interdit. Donc, il a ses comptes de campagne et puis ses comptes officiels de président de la République. Et si on va jeter un coup d'œil sur ses comptes de campagne, ça fait peur. Le compte Instagram avec vous de la campagne Emmanuel Macron, 16 000 abonnés.
Ouais, et ce qui est pas pire, hein,
sachant que son compte officiel il passe les 8 millions, donc c'est vrai qu'on est très très loin. Le compte Twitter de la campagne officielle de Macron, 34 000 abonnés, là aussi il a plus de 8 millions d'abonnés.
Ça reste
sur
des gros volumes. Si tu regardes tous les autres comptes de campagne de tous les candidats, ça reste des très gros volumes, mais c'est ridicule, hein, 34K vs 8 millions. Justement, le compte Twitter, on doit voir apparaître la petite vignette. Il y a quelques interviews de lui sur quelques sujets actuels, hein, on va dire, de sa campagne. Il y a quelques citations, il y a des posts inspirationnels qui font très gala ou Marie-Claire avec une citation. Et puis en bas, au lieu d'avoir son nom, c'est Marie-Claire, le 4 juin 2022, des citations pour le bien-être de nos enfants. Donc c'est voilà, c'est très distant. On dirait qu'il n'est pas encore dans sa campagne.
C'est ça, c'est très, on a l'impression de voir la campagne Emmanuel Macron 2027, tu vois. C'est bizarre, effectivement. Alors, il n'y a que sur YouTube. Il n'y a que sur YouTube où là, l'équipe de la campagne d'Emmanuel Macron a un peu mis les moyens, on va dire, avec une web série en 5 épisodes qui s'appelle Le Candidat. Ah. Ça fait un peu The Bachelor, comme cette télé-réalité, Le Candidat. 5 vidéos de 8 minutes hein, dans laquelle eh bien, on suit Emmanuel Macron aux 4 coins de la France. Je vous mets le lien hein, en note. On vous met d'ailleurs tous les liens en note de cet épisode hein, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et cette web-série, c'est assez étonnant, c'est assez marrant. Ça ressemble un peu au format du documentaire Orelsan.
Ouais.
Ne le dis à personne. Et je pense même, sans trop me tromper, que c'est le bench. C'est le bench qu'ont eu les équipes vidéo là, de la campagne d'Emmanuel Macron. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on suit en 5 épisodes la campagne du président Macron, ou du candidat Macron plutôt. Mix entre images documentaires, petite interview à l'arrière de la voiture, dans l'ambiance feutrée de la voiture, avec un Emmanuel Macron tiré à 4 épingles, mais qu'on sent quand même fatigué. Une tonalité très directe. Hein,
fait de la bagnole. Là, je vois juste les vignettes, il fait de la bagnole.
Voilà. Tonalité très directe et l'angle est vraiment mis sur Macron comme un problem solver. C'est-à-dire, je vois les réalités des Français en face, je vais m'y confronter, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, je vais sur le terrain, j'écoute les gens et les gens me disent des choses qui sont dures à entendre et je vais trouver des solutions. Bon, c'est là où ils ont mis leur bille. Chaque vidéo a été vue plus de 500 000 fois, etc. C'est intéressant d'aller voir ces vidéos parce que d'une, elles sont bien produites et puis le format est je trouve un peu cas d'école à ramener sur d'autres sujets. Voilà, moi ça m'a intéressé. On y apprend 2-3 bricoles, on n'y apprend pas des masses de trucs, on y apprend 2-3 bricoles. Moi j'ai appris par exemple qu'est-ce qui se passe quand le président se déplace dans une ville et les maires lui donnent des fiches, tu sais, ils lui donnent des petits papiers, ils appellent ça des petits papiers, des petites fiches, en disant à un moment donné tu vas aller dans tel EHPAD et tu vas rencontrer Monique, et Monique, oui, sa petite histoire c'est ça.
Okay.
Et du coup, c'est autant
Ça se tient. Hein.
Et voilà. Donc ça, c'était assez intéressant.
On y apprend aussi que son chien a le droit de rentrer à l'Elysée. Je viens de voir une vidéo, là. Donc.
Voilà. Donc, en attendant, je vais dire, le documentaire Netflix sur Emmanuel Macron, vous avez la possibilité d'aller suivre cette vidéo YouTube. Je suis sérieux, ça ressemble un peu à un docu Netflix, quoi.
Mais je pense que, c'est ça, sa campagne. C'est de ne pas faire de campagne. Je suis suffisamment visible,
bien
vous
sûr.
Montrer que des choses importantes et
de toute façon,
je me sors de la mêlée.
Épuisez-vous, parlez, et puis moi je me rends visible, mieux c'est. T'avais d'autres candidats dont tu voulais parler ?
Il y a un autre candidat dont on peut parler, c'est Yannick Jadot, donc on va dire le porte-étendard des Verts cette année. Alors j'étais dans ma quête de compte officiel et compte de campagne, donc je suis allé sur le compte Yannick Jadot sur Instagram, donc c'est déjà modeste, hein, c'est 38 000 abonnés, ça c'est son compte perso, on va dire, son compte officiel. Là, clairement, c'est un compte de campagne. Il y a du vert, il y a de la citation, il y a des positions politiques, il y a des discours face caméra. Voilà, il y a des highlights très très bien identifiés sur les sujets importants, sur son programme, sur le cannabis, sur les meetings, sur l'éolien. En fait, clairement, un beau compte de campagne, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, je suis allé jeter un œil sur son compte de campagne, justement, Yannick Jadot 2022. Là, c'est plus étrange. Il s'entoure de gens. En fait, on voit beaucoup de gens autour de lui, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a 300 abonnés. Ça casse pas trois pattes à un canard. On voit juste des gens. Et je ne sais pas si tu as vu une des dernières annonces qu'il a faites, Yannick Jadot, il y a quelques jours. Il a dit on remplacera les portraits, les portraits du président tout seul par un portrait de moi, bien sûr, entouré de gens. Donc c'est assez marrant et c'est ce qu'il essaye de montrer sur ce petit compte de campagne ces derniers temps, quoi.
Ouais, et ça c'est marrant que tu parles de ce sujet portrait de campagne. Ça c'est TF1 hein, qui a sorti ça aujourd'hui. Quand ils interviewent les candidats, ils ont une petite chronique où ils leur montrent l'affiche présidentielle de eux élus aux candidats et ils leur demandent de réagir dessus. Et c'est là, dans ce cadre là où il avait dit moi le jour où je serai président, je changerai tout, il n'y aura pas que moi sur l'affiche, il y aura aussi des Français en arrière-fond. Et du coup c'est intéressant de voir comment aussi les médias traditionnels et les médias en ligne ont petit à petit rapporté du ludique, pas petit à petit, ont massivement rapporté du ludique sur cette campagne présidentielle, avec un enjeu notamment pour les médias digitaux, c'est comment raconter une campagne présidentielle, parler de trucs sérieux en 30 secondes.
Ah bah ouais.
Hein, comment le faire format story, comment le faire en format 9/16 très court. Et bah c'est un peu sur ce challenge-là qu'ils ont cogité. Et du coup, on voit apparaître eh bien, une énorme tendance à la gamification de la campagne avec plein de petits jeux, avec des formats un peu à la Combini, ramenés sur des hommes et des femmes politiques. C'est assez étrange, ou du moins de moins en moins étrange. Paradoxalement, on commence à s'habituer à ce format. Alors, il y en a plein. On pourrait parler d'Hugo Décrypt qui a fait beaucoup de choses au cours de cette campagne vraiment intéressante, notamment sur son compte Instagram, sur sa chaîne Twitch, YouTube, etc., avec des formats longs, des formats courts, etc. C'est vraiment très chouette ce qu'a fait Hugo Décrypt. Et on pourrait parler aussi de Brut. On pourrait parler de tous les médias, mais juste pour cibler. Brut qui a notamment fait des Q&A, donc des questions-réponses sur son compte Instagram. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Série de questions-réponses avec les candidats et candidates, format stories, max 30 secondes par réponse. Vous pouvez les retrouver en highlight du compte. Et c'est, en vrai, ça marche pas mal. En 30 secondes, moi, j'ai réussi à piger des trucs. Et je vais avouer que je me suis régalé avec la série de Fabien Roussel. Voilà, Fabien Roussel, donc le candidat communiste, hein, dans lequel il parle viande, chasse, vote à 16 ans, et même de Staline. Ça vaut le coup de passer quelques minutes en format story pour apprendre à connaître ce candidat.
Et dans ce côté, pareil, une nouvelle manière de raconter les candidats. Hier, dans notre seconde émission de podcast présentée par Rémi Podcastologie, on parlait de 9 podcasts autour des présidentielles. Moi, il y en a un que j'avais écouté avant, c'est présidentiel.iels, autour des droits des femmes, du féminisme et des LGBTQI+. Et en fait, ils posent les mêmes questions à chaque candidat. C'est ça que j'ai trouvé assez ouf. Donc en fait, même si le sujet, toi, tu le défends pas forcément ou te passionne pas forcément, t'as une grille de lecture sur la personnalité de la personne du candidat en face, et j'ai trouvé ça assez intéressant.
C'est un format podcast.
C'est un format podcast.
Ok, bah on vous met le lien en note de cet épisode.
Voilà, c'est assez ouf, et tous ceux qui ont été présentés dans Podcastologie méritent aussi de.
Oui, voilà. Allez jeter un coup d'œil au dernier épisode du podcast Podcastologie, un podcast aussi produit par Supernatif. On y parle aussi des présidentielles, mais avec un autre angle, celui des podcasts.
Exactement.
Les amis, on va s'arrêter là.
Oui, on va s'arrêter
voilà,
là.
Voilà, allez voter dimanche.
Allez voter dimanche ou faites procuration. Et pour info, la station de ski des Jets a lancé une opération tous skitoyens et proposera ce dimanche un forfait de ski à 1 euro sur présentation de sa carte d'électeur tamponnée à la date du jour
bien
du
joué,
SIPC
les
de
bien
procuration.
Vu, jolie petite pub, c'est bien placé. les amis, on serait ravis de continuer à échanger avec vous sur les réseaux sociaux, @supernatif, à peu près partout, hein, là où vous êtes, nous y sommes. Et puis, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, balancez les 5 étoiles maintenant, tout
voilà.
De suite. Votez pour nous et balancez-nous un commentaire.
Voilà, un petit commentaire, une petite note, ça nous fera très plaisir. On pense fort à vous. Très bonne journée, très bon week-end et allez voter.
Merci à tous, on vous embrasse.
Ciao.
Salut tout le monde, ciao, bye.